Le président américain Donald Trump a assuré cette nuit que les discussions en cours avec l'Iran se déroulent très bien, je cite. Tsahal a annoncé avoir lancé des frappes ciblées dans le sud du Liban en réponse à une violation flagrante du cessez-le-feu par l'organisation terroriste du Hezbollah. La réunion de concertation européenne sur la crise migratoire survenue à Ceuta jeudi dernier s'est déroulée dans une atmosphère constructive, c'est ce qu'a déclaré le ministre espagnol de l'Intérieur. Et puis enfin, les États-Unis appellent leurs ressortissants à faire preuve d'une vigilance accrue en se rendant en Belgique. Le président américain Donald Trump a assuré cette nuit que les discussions en cours avec l'Iran se déroulent très bien, le tout en avertissant que les États-Unis lanceraient des frappes avec force si les négociations venaient à échouer. Dans un entretien accordé à Fox News, Donald Trump a affirmé que Téhéran continue de nier l'existence de ces pourparlers. Ils mentent tout le temps, ils veulent parvenir à un accord mais ils n'aiment pas le reconnaître, a déclaré le président américain. Le président américain qui s'est également montré optimiste quant à une réouverture prochaine du détroit d'Hormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Selon lui, cette réouverture pourrait intervenir par un accord ou par la force. Ils ont vu notre préparation militaire, ils seraient très avisés de conclure un accord, a déclaré Donald Trump. Interrogé sur le délai qu'il est prêt à laisser à l'Iran alors qu'il avait déjà fixé plusieurs échéances ces dernières semaines, Donald Trump a répondu « J'ai encore beaucoup de temps, les gens parlent des élections de mi-mandat, mais ce qu'ils veulent ce sont des victoires ». Fin de citation. Et puis le secrétaire d'État américain Marco Rubio emboîte le pas. Il a déclaré que des progrès avaient été réalisés et qu'un accord avec l'Iran visant à rouvrir entièrement le détroit d'Hormuz pourrait intervenir prochainement, et ce même s'il restait encore du chemin à parcourir, alors que Donald Trump et d'autres hauts responsables de l'administration ont laissé entendre qu'un accord pourrait être conclu dans les prochains jours. Des progrès ont été réalisés lors de ces négociations, mais rien n'est encore définitif. Nous espérons que cela se concrétisera très prochainement, c'est ce qu'a déclaré Marco Rubio. Samedi, Donald Trump avait affirmé qu'un accord était imminent lorsqu'il a décidé de revenir sur sa dernière menace de bombarder l'Iran. Puis lundi, il a déclaré qu'un accord pourrait être signé hier, tandis que son ministre des Finances, Scott Bessent, annonçait lui que l'accord pourrait être conclu aujourd'hui. Donald Trump, de son côté, a affirmé à Fox News que les discussions avec Téhéran était, je cite, très bonne. Selon lui, les Iraniens l'auraient appelé pour demander à négocier. Tsahal a annoncé avoir lancé des frappes ciblées dans le sud du Liban en réponse à une violation flagrante du cessez-le-feu par le Hezbollah. Selon l'armée israélienne, le village d'Al-Mansouri se trouve dans une zone de sécurité où les opérations militaires se poursuivent et présentent un danger pour les personnes présentes. Tsahal affirme avoir diffusé un avertissement préalable afin de permettre l'évacuation des civils. L'armée ajoute que ces derniers seraient entrés dans la zone sous la protection de l'armée libanaise, laquelle aurait installé un poste de contrôle sur place en violation des accords en vigueur. Et puis justement, dans ce contexte, la dernière série de pourparlers entre Israël et le Liban, organisée sous l'égide des États-Unis, a débuté à Rome et se poursuivra jusqu'à demain. Les discussions portent entre autres sur la question de savoir quels pays seront chargés de vérifier quelles zones dans lesquelles les forces armées libanaises ont pénétré dans le cadre de la phase pilote sont exemptes tant de membres du Hezbollah que d'armes appartenant au groupe terroriste. Au début des négociations, Israël a insisté pour être la partie autorisée à pénétrer dans les zones sécurisées par les forces armées libanaises afin de pouvoir confirmer définitivement qu'elles étaient exemptes de toute présence du Hezbollah. Suite à la vive opposition du gouvernement libanais, les responsables israéliens, libanais et américains ont entamé des discussions. L'Italie pourrait faire partie de ces pays, les pourparlers sont en cours. Par ailleurs, Israël et les États-Unis s'opposent fermement à la prolongation du mandat de la FINUL qui doit expirer à la fin de cette année. Il ne souhaite pas que cette force multinationale de maintien de la paix soit chargée d'effectuer la vérification finale sur le terrain. Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que son pays soutiendrait toute initiative ou décision prise par les dirigeants palestiniens dans le cadre des négociations indirectes en cours entre Israël et le Hamas. Selon les médias d'État iraniens, Téhéran entend ainsi s'en remettre au choix des responsables palestiniens concernant l'avenir des discussions et les éventuels arrangements envisagés dans la bande de Gaza. Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a annoncé la semaine dernière que son conseil de paix était parvenu à un accord sur le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. D'après cette version, le texte aurait été conclu à l'issue des discussions entre des représentants du Hamas, du Conseil de paix et plusieurs pays médiateurs de la région, parmi lesquels l'Égypte, le Qatar et la Turquie. L'armée américaine a toutefois été rapidement contestée par Israël. L'annonce américaine, pardon, a toutefois été rapidement contestée par l'État hébreu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré hier soir que son gouvernement n'avait pas accepté le plan présenté. Cette prise de position met en lumière les divergences persistantes entre les différents acteurs impliqués dans les négociations, notamment sur les conditions d'un éventuel désarmement du Hamas et sur les garanties exigées par Israël. Et puis dans ce contexte, toujours à Gaza, la brigade des parachutistes a découvert dans le sud de la bande une infrastructure souterraine contenant des dizaines de roquettes appartenant à des organisations terroristes, c'est ce que déclare Tsahal. Les soldats placés sous le commandement de la 143e division opéraient dans le secteur de la ligne jaune afin de démanteler des infrastructures terroristes situées en surface et sous terre. Le tunnel et les roquettes ont été détruits avec l'appui des forces du génie de la division de Gaza et de l'unité Yahalom. Tsahal a également diffusé des images enregistrées par la caméra fixée sur un chien de l'unité Hawkets à l'intérieur du tunnel. L'armée israélienne précise que ses forces restent déployées conformément à l'accord de cessez-le-feu et continueront d'intervenir contre toute menace immédiate. L'armée syrienne a relevé son niveau d'alerte et rappelé certains militaires en permission alors que des mouvements de troupes sont signalés près de la frontière de l'Irak. Selon des sources citées par le média Al Arabiya, plusieurs unités ont reçu l'ordre d'accroître leur préparation opérationnelle. Des médias syriens évoquent un passage au niveau d'alerte C et le retour immédiat des soldats dans leur base. Certaines formations auraient également été envoyées vers les régions frontalières. Ni le nombre de militaires mobilisés ni les lieux précis de leur déploiement n'ont pu être vérifiés de manière indépendante. Deux soldats syriens interrogés anonymement par un média nommé The Media Line ont confirmé que leur permission commencée lundi avait été annulée. Ils affirment avoir reçu l'ordre de regagner immédiatement leur unité sans obtenir des explication. En Europe, la réunion de concertation européenne sur la crise migratoire survenue à Ceuta jeudi dernier s'est déroulée dans une atmosphère constructive. C'est ce qu'a salué le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska. Pour réduire la répétition de tels incidents à l'avenir, les partenaires européens ont convenu d'améliorer la communication et d'organiser un meilleur monitoring des informations circulant sur les réseaux sociaux. Selon un nouveau bilan livré par les autorités espagnoles, quelques 72 000 personnes ont pénétré jeudi dernier dans l'enclave espagnole en Afrique du Nord, mais 70 000 en sont déjà ressortis. 72 migrants sont toutefois morts, principalement par noyade. Selon l'ONG Save the Children, près d'un millier de mineurs non accompagnés sont toutefois restés à Ceuta. Le gouvernement espagnol a annoncé une enveloppe extraordinaire de 25 millions d'euros destinée à leur prise en charge. La crise de Ceuta a engendré de fortes tensions diplomatiques entre l'Espagne et de nombreux pays européens, dont l'Italie en tête, qui ont accusé le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez de laxisme aux frontières de l'Europe. Direction le Royaume-Uni maintenant, où les incidents antisémites ont augmenté de 21% au cours des 6 premiers mois de 2026 par rapport à la même période l'année dernière. Cela atteint le deuxième total le plus élevé jamais enregistré pour un premier semestre, selon un nouveau rapport publié par le Community Security Trust ce matin. L'organisation a recensé 1926 incidents de haine antisémite entre janvier et juin, contre 1598 au cours du premier semestre 2025. Ce total correspond à une moyenne de 321 incidents par mois, soit près du double du chiffre enregistré avant l'invasion du sud d'Israël menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Les agressions physiques ont fortement augmenté avec 135 agressions antisémites recensées, soit une hausse de 82% par rapport à l'année précédente. Les incidents dans les écoles ont bondi de 59% pour atteindre 178, tandis que les incidents liés aux synagogues ont augmenté de 31%. Parmi les incidents les plus graves figure l'attaque terroriste à l'arme blanche perpétrée le 29 avril à Golders Green contre deux hommes d'apparence juive qui a déclenché 71 autres incidents antisémites au cours des trois jours suivants. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à faire preuve d'une vigilance accrue en se rendant en Belgique. Les États-Unis ont modifié leurs recommandations aux voyageurs concernant la Belgique afin d'alerter leurs ressortissants sur des risques liés à la criminalité, au terrorisme et à des troubles sociaux. Une décision prise dans un contexte tendu entre le gouvernement belge et l'administration Trump. Dans leurs recommandations de voyage, les États-Unis classent les pays du monde entier en 4 catégories. Le premier niveau se résume à un rappel à respecter les mesures de précaution habituelles. Suivent les avis suivants. Faites preuve d'une prudence accrue, revoyez vos projets de voyage et enfin, ne voyagez pas. Jusqu'ici, la Belgique était dans la première catégorie, elle est désormais dans la deuxième, subissant ainsi le même sort réservé à plusieurs pays d'Europe de l'Ouest depuis 2 ans. La France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le Danemark et la Suède. Pour l'heure, l'Irlande, le Portugal, la Suisse, l'Autriche et la Norvège restent au niveau 1. Et on termine ce journal avec l'actualité à Bruxelles. Les fournisseurs de trottinettes et vélos partagés sont priés de cesser leurs activités dès que possible dans la capitale. Tous les opérateurs de trottinettes et vélos partagés présents à Bruxelles ont reçu une lettre officielle de Bruxelles Mobilité. La région les invite en effet à cesser leurs activités dès que possible après l'annulation de leur licence d'exploitation par le Conseil d'État. C'est ce que relate le média bruxellois néerlandophone Bruse. Les trottinettes et vélos en libre service devront avoir disparu de l'espace public de la capitale d'ici le 1er septembre prochain, c'est ce qu'a annoncé Bruxelles Mobilité. Mais dans les faits, la région invite en réalité les opérateurs Dot, Bolt et Voy à cesser leurs activités sur la capitale dès que possible. C'est ce qui leur a été signifié par un courrier officiel. Ils s'exposent d'ailleurs à des sanctions en cas de non-respect des délais imposés, toujours selon Bruse. Des voix s'élèvent néanmoins parmi les opérateurs lésés, mais aussi chez Touring et Voreut, les socialistes néerlandophones, pour préserver au moins les vélos partagés à Bruxelles dans l'intérêt des utilisateurs bruxellois.